Nous demain. Une émission de Jean-Pierre Estrampes. Architecture, urbanisme, cadre de vie. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de préfabrication. Alors, c'est un mot qui, dans la langue commune, n'est pas très positif, et notamment dans le bâtiment, parce que ça renvoie à préfabriquer, et les préfabriqués, pour la plupart d'entre vous, ont une connotation négative ou un souvenir qui n'est pas très bon, notamment des préfabriqués qui étaient dans les écoles, et ces bâtiments qui étaient supposés être provisoires à un moment donné où il y a eu un afflux d'enfants dans la démographie galopante de l'après-guerre et même après. Et donc, on avait ces bâtiments Jonas qui étaient supposés être provisoires et qui sont restés pendant des décennies et dans lequel il faisait chaud l'été, il faisait froid, même l'été s'il n'y a pas la classe, en tout cas quand il y a les beaux jours, et il faisait froid l'hiver. Et c'était à la fois laid et désagréable de faire un cours pour les profs et pour les élèves de subir ces bâtiments. Donc, le préfabriqué a quelque chose de négatif qui est dans le passé, dans, on peut dire, dans le ressenti général. Pourtant, si vous regardez autour de vous, tout ce qui est autour de vous est, alors, préfabriqué, industrialisé. Mais c'est quoi l'industrialisation ? C'est la préfabrication. Et donc, si vous regardez autour de vous, c'est-à-dire le smartphone, l'ordinateur d'abord, et puis évidemment, c'est vos habits, vos chaussures, les objets autour de vous sont tous des objets industrialisés. Et si vous cherchez ce qui est fait à la main, produit artisanal, etc., je pense que la plupart d'entre vous n'ont pas ça sous les yeux. Alors, il ne s'agit pas, dans le discours d'aujourd'hui, dans ce que je vais démontrer, de faire des camps contraires entre ce qui est artisanal, fait main, et ce qui est industrialisé. Mais d'essayer justement de passer au-delà de certains idées reçues, et notamment celles qui sont liées à ces fameux préfabriqués, et de voir la situation du bâtiment. Alors, le bâtiment, par rapport aux autres secteurs de l'industrie, alors évidemment je parlais des petits objets, mais on va parler des voitures, on va parler des avions, une ville comme Toulouse où on a des chaînes de production d'avions et on peut dire des milliers d'entreprises sous-traitantes qui fabriquent aussi et qui usinent. Donc nous sommes dans ce monde-là. Et d'une manière assez surprenante, le bâtiment, même si on met de côté ce dont je viens de parler, est très peu préfabriqué, et la préfabrication a une mauvaise presse. C'est-à-dire que les maisons préfabriquées, bon, on pense à certaines marques dont on se souvient. Il y avait aussi, pour les plus anciens, les Chalandonnettes qui n'avaient pas eu une bonne réputation. Donc il est lié dans le bâtiment une idée qui, à mon sens, est fausse. Et dans la deuxième partie de l'émission, je vais m'efforcer de proposer des solutions, mais on va essayer de comprendre pourquoi tout cela est été négatif. Alors, il y a certainement un côté, on peut dire, mémoriel, qui lie le bâtiment à l'artisanat. Alors, il ne s'agit pas, encore une fois, de dire qu'il faut supprimer les métiers de d'artisanat. Alors, d'une part, pour une raison bien simple, c'est que nous avons un patrimoine historique, avec l'Italie, certainement le plus important sur un plan mémoriel et même touristique à développer, qui est en plus en assez mauvais état, qui n'a pas fait l'objet de grandes dotations de la part des pouvoirs publics et de la part de notre président actuel. Donc là, il y a un domaine très important où les métiers d'artisanat pour les jeunes sont des métiers d'avenir. Alors, il y a aussi des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments historiques, mais qui sont des bâtiments anciens. Alors, le bâtiment ancien, c'est peut être aussi un bâtiment des années 50. On n'a pas besoin de remonter aux chapelles romanes et aux vestiges romains. Donc, le patrimoine doit être entretenu, mais il y a bien sûr la construction moderne, même si les écologistes disent il ne faut plus construire et il faut que rénover. Tout ça est assez absurde. Les bâtiments ont d'abord un cycle d'obsolescence, et puis il y a aussi des besoins pour les populations d'avoir non seulement des logements, mais aussi des bâtiments qui soient des bâtiments de loisirs, des bâtiments d'éducation, des bâtiments d'hôpitaux, des commissariats, etc. Enfin, il y a un grand nombre de bâtiments, d'usines, de bâtiments de commerce qui sont nécessaires dans le développement d'une nation. Donc, il faut arrêter avec sur ne construisons plus en neuf et ne faisons que restaurer. Bien sûr, on a besoin des deux, mais on a besoin de bâtiments neufs. Alors, revenons à notre problème de préfabrication qui, dans notre pays, à d'autres pays, a pour ces raisons diverses, a mauvaise presse. Alors, il faut dire que un grand nombre d'objets ou dans le bâtiment sont industrialisés. Les lavabos, les robinets, les radiateurs électriques ou autres, bien sûr, viennent des usines. Les tuyaux d'évacuation, autrefois en plomb, aujourd'hui en PVC. Enfin, il y a du progrès et les fenêtres, les portes. Enfin, il y a un grand nombre de composants du bâtiment sont assemblés sur un chantier. Mais il n'y a pas une véritable préfabrication. Alors, quand je vous parlais des lavabos, par exemple, les salles de bain préfabriqués sont quelque chose qui est totalement marginal. Ça existe dans certains hôtels, des éléments de construction de vacances, mais on ne va pas acheter une salle de bain préfabriquée, et les promoteurs, qu'ils soient sociaux ou privés, font comme avant, c'est-à-dire qu'on a un plâtrier, on a un plombier, on a un carreleur, on a un menuisier, on a un peintre sur une surface très petite qui est donc de ce fait compliquée à faire, à avoir une bonne finition et aussi au niveau prix. C'est assez imbécile. Alors, même si les cuisines aujourd'hui, on a les cuisines en kit qui est une nette amélioration sur cela, il y a un grand nombre d'éléments du bâtiment qui ne sont pas préfabriqués. Alors, la construction elle-même n'est pas faite de composants, et la plupart des murs, des fond, alors évidemment il y a les fondations, il y a des choses que ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas être résolues par l'industrialisation, mais un grand nombre d'éléments, de planchers, de toitures, je parle des éléments techniques, mais des ensembles entiers, qui pourraient être améliorés en qualité et surtout en coût. Alors, là, on est sur un élément qui est évidemment essentiel, puisque dans les objets industriels dont on parlait, nous avons une baisse des coûts. Si on compare le prix de tous les objets industriels qui nous entourent, ne serait-ce que les simples paires de chaussures ou les vêtements que vous portez, et ne parlons pas des chaises, tables, etc., qui étaient au cours du XXe siècle, qui constituait des sommes et des investissements très importants. On a vu les prix se réduire à travers les grandes surfaces comme Ikea, les prix sont devenus très très bas. Donc, en même temps, la qualité n'a pas du tout baissé. Donc, on n'est pas du tout dans le préliminaire que je faisais sur les préfabriqués. On a au contraire la qualité qui a augmenté, des produits qui durent dans le temps et qui sont infiniment moins chers qu'avant. Donc, le bâtiment n'a pas une qualité qui a augmenté. Aujourd'hui, on sait très bien que sur le marché, les bâtiments anciens ont une valeur, mais pas que sentimentale, une valeur réelle, parce que les gens disent ça a duré, c'est construit en briques, ça va durer dans le temps, c'est un investissement plus pérenne, plus sûr que des bâtiments récents. Et là, c'est le seul domaine. Aucun domaine, personne ne dit on va revenir aux calèches et aux diligences pour se déplacer. Là, c'est quelque chose qu'on accepte comme une fatalité, et ça n'en est pas une. Donc, le bâtiment est bien trop cher. Les raisons sont diverses. Il y a aussi des raisons qui ne sont pas liées à la construction elle-même, qui sont à la pénurie artificielle du foncier, avec le refus de l'urbanisation. Il y a un grand nombre d'éléments, et aussi à cette, on peut dire, désorganisation généralisée, parce que l'industrialisation demanderait des politiques d'ensemble et le bâtiment s'y refuse. Alors on a des stratégies, par exemple, de concours d'architectes avec une multiplicité d'intervenants qui fait qu'il n'y a aucune responsabilité, aucune stratégie à long terme. On passe de l'un à l'autre on a pourtant des entreprises qui sont les plus performantes du monde. Les grandes entreprises françaises construisent dans le monde entier des barrages, des gratte-ciel, etc. Et en France, on se trouve devant une sorte d'incapacité de subvenir aux besoins de nos contemporains. Alors j'en ai parlé au cours de ces émissions, des choses invraisemblables comme la fermeture du musée des Augustins, on ne sait pas pour réparer quoi, pendant 7 ans, et ce n'est toujours pas fini. On a des aberrations comme parler de la reconstruction de Notre-Dame, j'en ai parlé dans d'autres émissions, et en fin de compte, il s'agissait que de nettoyer un incendie, refaire une charpente, et on en a fait une sorte d'épopée d'État avec le président de la République avec sur son cheval blanc et sur un drapeau comme s'il revenait des croisades. Tout ça est assez ridicule et nous amène une sorte d'infantilisation des métiers du bâtiment dont les causes sont diverses. Donc, On va marquer une pause musicale et puis je vais essayer, dans la deuxième partie, de l'exposer, d'avoir une approche un peu plus optimiste et d'essayer de voir quelles solutions on pourrait apporter.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Thou givest fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you've listened to my story, here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them, fever. If you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn.
Reprenons sur la préfabrication, et donc qui est sur l'organisation du bâtiment, mais beaucoup plus, c'est aussi notre cadre de vie qui est en cause. Donc, la première réaction que j'aurais, c'est de faire une critique des politiques. Nous avons l'habitude en France de parler en dépenses publiques. Alors on sait très bien quel est le déficit de la France, mais on a l'impression qu'à tous les niveaux de l'État, mais aussi dans le millefeuille des collectivités territoriales, il y a cette espèce d'addiction à la dépense publique. Je prends un exemple. Normalement, on devrait dire... Nous avons construit tant d'écoles, tant de collèges, tant de gymnases. Nous avons construit, je ne sais pas, des maisons de la culture, des salles de concert. Et nous avons, pour un budget de X millions d'euros, nous sommes arrivés à construire des piscines, etc., etc., et de donner le nombre. Et non, ce n'est pas comme ça que ça marche. On dit, nous avons dépensé tant de millions. Et puis, au niveau de l'État, c'est 10 milliards. pour l'éducation nationale, pour les bâtiments. On ne dit pas ce que l'on a fait. On dit que on donne le budget et on se glorifie d'avoir dépensé de l'argent public. Mais non, c'est le contraire que l'on devrait faire. On devrait au contraire dire quel est le résultat et l'argent que l'on a économisé. On pourrait dire, nous avons au cours de la mandature, ou même de l'année, chaque année sur un bilan annuel, nous avons construit par rapport à l'année précédente, je ne sais pas, 5 piscines de plus, ou et pour le même prix. Alors là, on pourrait dire bravo. Et pour cela faire, eh bien, on aurait eu un effort des services techniques, on aurait demandé à des entreprises, des architectes, des ingénieurs de se grouper et de faire d'une manière efficace des efforts pour arriver à cela. C'est la même chose partout. C'est-à-dire qu'il y a des marchés internationaux, il y a des compétitions, et on est en concurrence, les entreprises, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix, donc la concurrence est sur le marché, mais il semblerait qu'au niveau non seulement de l'État, mais encore une fois, de toutes les collectivités locales, plus on dépense, mieux on se porte. Et on peut aussi s'endetter, on est à 3500 milliards, on ne sait plus très bien, et on continue dans le quoi qu'il en coûte, alors quoi qu'il en coûte pour tout. Donc il y a, je pense, dans l'essentiel des dépenses d'une manière générale, mais surtout sur quelque chose qui est, on peut dire, quantifiable, que l'on peut comparer. On peut le comparer entre ce qui a été construit dans d'autres pays ou ce qu'on construisait avant. Alors, comme je suis architecte et que j'ai eu ce type d'expérience d'avoir à construire des bâtiments, et des bâtiments par exemple pour les universités, à une période où il y avait effectivement une carence, il fallait construire très rapidement des bâtiments. Et alors, le fait que les bâtiments que j'ai construits, il y a déjà plusieurs décennies de cela, et des bâtiments qui sont toujours en très bonne santé, mais qui étaient quasiment moitié prix et même encore moins que par les procédures lourdes, complexes, et j'avais utilisé le savoir-faire d'entreprises régionales et pour réaliser des bâtiments qui ont été construits dans des délais très courts, qui n'ont pas bougé dans le temps. Alors, je ne veux pas me mettre comme exemple, mais raconter simplement le résultat, c'est qu'on m'a dit, mais en fin de compte, ça ne marche pas, là, vous êtes trop bon marché, et vous mettez en péril le système qui était fait d'une administration, des bureaux d'études, des conseils en ceci, en cela, des coordinateurs, des économistes, des thermiciens, des paysagistes, enfin, l'armée mexicaine qui est aujourd'hui celle qui est demandée pour les concours, on fait des concours, tout ça coûte un prix fou, et quelque part, plus on dépense, plus tout ce petit monde se porte bien, et les élus sont ravis de pouvoir annoncer des chiffres qui augmentent, dû à l'emprunt, dû à vos impôts, et on est dans une situation qui est assez invraisemblable. Donc, je pense qu'il y a une remise en ordre qui devrait être faite à ce niveau, et de considérer que les bâtiments ne sont pas différents que quand on achète des produits du marché. Quand vous achetez une voiture, on ne dit pas « on a oublié les freins » ou dans les marchés publics, il y a des imprévus. Alors, mais non, il faut tout prévoir. Si quelqu'un n'a pas prévu, qu'il soit un architecte, un ingénieur, ou l'administration, il faut les sanctionner. Et en fait, personne ne sanctionne personne, et c'est la course à l'échalote de ce que je disais tout à l'heure, c'est peu importe que ça coûte, c'est le quoi qu'il en coûte qui vient du plus haut sommet de l'État, qui était appliqué à des circonstances exceptionnelles, entre guillemets, mais qui est, je crois, appliqué d'une manière générale. Donc, pour être pas dans la dénonciation, mais dans les choses plus pragmatiques, on pourrait avoir des évaluations des projets, non pas ces concours sur des images informatiques qui ne servent à rien, qui sont là pour, comme des leurres, pour tromper les niais, mais avoir des évaluations sur les bâtiments. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre des étoiles. Il y a le guide Michelin qui met des étoiles pour les restaurants, avec des enquêtes qui sont extrêmement bien faites, d'anonymes. Tout ça est publié, et on pourrait avoir la même chose sur les bâtiments. Alors vous avez un rapport qualité-prix, comme il est fait dans d'autres domaines, et vous avez des évaluations, les films, vous avez des petites étoiles, les spectateurs, sur Internet ou à la télévision, et vous avez la presse et les spectateurs. Donc vous pourrez avoir dans le bâtiment, Non plus ces photos avec les élus qui se congratulent avec des écharpes tricolores de plus en plus larges et qui coupent des rubans, et on n'a plus derrière aucun responsable. On est derrière des sigles, mais il faudrait avoir des gens qui prennent la responsabilité, et quand on prend la responsabilité, on est récompensé. Ça veut dire que on vous dit non pas vous avez trop construit, mais vous allez encore mieux construire. Et puis ceux qui ont fauté, on leur dit revenez à vos études ou faites autre chose. Donc, quand il n'y a pas, on peut dire, de côté bénéfique, quand on n'a pas de satisfaction, quand on n'a pas de reconduction de marché dans le cas de réussite, et que au contraire, et à l'inverse, quand il n'y a pas de sanctions, quand des gens ont dépassé les budgets ou n'ont pas rempli les délais, eh bien, on a la situation dans laquelle on est, c'est-à-dire que la qualité se dégrade et les coûts augmentent. Voilà, donc il n'y a pas de mystère dans le bâtiment par rapport aux autres domaines de l'industrie, et qui sont les domaines du quotidien à tous les niveaux, dans lesquels on a des évaluations et des sanctions et des systèmes de contrôle. On est là dans un système complètement touffu, et avec des politiques qui cherchent surtout à se mettre en valeur en disant combien nous avons dépensé, pas avec leur argent, mais avec notre argent. C'était « Où vivrons-nous demain ?» Je remercie toujours Sacha qui est à la technique, et je vous dis à la semaine prochaine.